Vous écoutez Europe 1, il est 22h. L'heure du journal, Sophie Etchaine.
La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme.
Emmanuel Macron l'affirme, la réforme des retraites se fera. Le président de la République a adressé ses vœux aux Français en cette fin d'année. Il demande notamment un compromis rapide de la part du gouvernement. Les réactions ne se sont pas faites attendre, évidemment. Réactions politiques et syndicales. Sur Europe 1, le secrétaire général de l'UNSA dit attendre beaucoup du compromis mentionné par le président. H-2 avant la bascule en 2020. La soirée s'annonce très festive et déjà beaucoup de monde à Paris sur les Champs-Élysées.
Là, on est arrivé, on était surexcités de voir ces gens qui avançaient vers l'Arc de Triomphe, c'était vraiment fantastique. Des étoiles plein les yeux.
Comment Carlos Ghosn a-t-il pu s'échapper du Japon après sa fuite rocambolesque hier soir? Plusieurs questions et des zones d'ombre.
Vous êtes face à un procès dans lequel vous risquez votre vie et vous n'avez pas le respect des droits élémentaires de la défense.
Une situation toujours très confuse en Irak après l'invasion de l'ambassade américaine par des militants irakiens ce matin. Donald Trump demande aux autorités locales d'utiliser leurs forces pour protéger le site. Et puis une fin d'année au goût amer pour Marc Vera. Le chef au Savoyard a perdu son procès contre le guide Michelin. Après ce journal, la météo bien sûr. Et puis on fera un point sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Enfin, pas d'interview éco ce soir, mais l'invité culture de Sébastien Krebs. En cette soirée de réveillon, Sébastien reçoit Thierry Outria, le directeur de scène du Moulin Rouge, alors que le cabaret vient de fêter ses 130 ans.
Europe 1.
La réforme des retraites se fera jusqu'au bout. S'il était jusqu'à présent resté en retrait depuis le début du conflit, Emmanuel Macron a confirmé sa volonté ce soir au cours de ses vœux aux Français.
J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Alors, ne vous y trompez pas, j'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler.
L'allocution d'Emmanuel Macron ce soir, des vœux particuliers les plus longs de son quinquennat. Sur un peu plus de 18 minutes, le chef de l'État a consacré 5 minutes à la réforme des retraites, alors que la mobilisation paralyse toujours une partie des transports en France. Et tout en évitant les sujets qui crispent Adrien Beck, le message du président a été clair, la balle est désormais dans le camp du Premier ministre.
Et oui, absolument. Rappelez-vous, avant Noël, Emmanuel Macron avait dit vouloir des avancées. Et bien maintenant, il somme son gouvernement de trouver un compromis rapide avec les syndicats. Message reçu à Matignon. On y travaille, nous assure ce soir un proche d'Édouard Philippe. Alors pour cela, le chef de l'État a tracé une feuille de route en évitant bien sûr les mots qui fâchent. Pas d'âge pivot dans son allocution. À la place, Emmanuel Macron souligne que des millions de Français sont contraints de travailler au-delà de 64 ans. Plutôt que de parler d'équilibre financier, le chef de l'État plaide pour garantir la solidité du système. Enfin, sans utiliser le mot pénibilité, il assure que la réforme prendra en compte les tâches difficiles pour partir plus tôt, comme le demandent CFDT et UNSA. Et comme s'il fallait le rappeler, Emmanuel Macron répète que la réforme sera menée à son terme. Reculer n'est clairement pas une option, car Emmanuel Macron veut continuer à réformer. D'habitude, dit-il, c'est le moment du mandat où l'on renonce à agir. Nous n'avons pas le droit de céder à cette fatalité.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Après cette allocution, les réactions des opposants politiques d'Emmanuel Macron n'ont pas tardé. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, déplore une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Le leader de la France insoumise pointe un discours qui sonne faux et creux. Une fois de plus, rien, écrit de son côté Marine Le Pen. Et pour Florian Philippot, président des Patriotes, Emmanuel Macron récite son bréviaire de campagne. Cette déclaration, qui était aussi très attendue du côté des syndicats. Le compromis rapide mentionné par Emmanuel Macron est-il possible? La grève est-elle partie pour continuer? Écoutez la réponse du secrétaire général de l'UNSA, Laurent Escure.
Je n'ai pas été surpris par son intervention. Il montre à la fois sa détermination et il a parlé d'apaisement. J'ai compris qu'il disait aussi qu'il fallait respecter les désaccords. Et je pense qu'on en a un, notamment sur la mesure punitive financière qui tourne autour de l'âge pivot. Le Premier ministre avait dit qu'il y aurait des discussions à partir du 7 janvier sur cette question-là. J'espère que l'appel du président à un compromis sera un compromis qui ira dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'intérêt des salariés. On verra ce qui se passera dans la semaine de la rentrée du 7 janvier avec les premières réunions. Si la question de l'équilibre est une mesure punitive et financière, oui, il y aura des actions.
Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA, premier syndicat à la RATP, deuxième à la SNCF. Il répondait à Sébastien Krebs pour Europe 1. La grève qui risque donc de se durcir, 28e jour de mobilisation, demain est toujours un trafic très perturbé sur les rails. La SNCF prévoit un TGV sur 3, 2 TER sur 5 et seulement un intercité sur 10. À Paris, 8 lignes de métro resteront totalement fermées. Des difficultés à prévoir également du côté des RER. Et si vous vous demandez déjà comment vous allez pouvoir regagner votre domicile le week-end prochain, fin des vacances, la SNCF va assurer 2 TGV sur 3 de vendredi à dimanche entre Paris et les grandes villes. Trafic quasi normal sur l'axe Marseille-Lille et vers l'Est. Situation plus compliquée en revanche sur l'axe Atlantique, une ligne où les grévistes sont encore très nombreux. En cette soirée de réveillon, prudence sur les routes, 100 000 policiers et gendarmes sont déployés partout en France, à Paris notamment, où on attend jusqu'à 300 000 personnes sur les Champs-Élysées. C'est là que vous vous trouvez, Romane Hoquet. Il y a beaucoup de monde, les festivités ont commencé depuis une heure déjà.
Oui, ça y est, les projecteurs de l'Arc de Triomphe sont allumés. Des DJ réchauffent l'ambiance sur la place de l'Étoile. Des airs de disco, de salsa, d'électro pour danser sur les grands classiques des soirées de fête. Didier et sa femme se déhanchent. Ils ont une occasion très particulière à célébrer ce soir.
C'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite encore un joyeux anniversaire. Je l'aime très fort.
C'est un beau cadeau d'anniversaire ?
Oui, et on est venu fêter cette occasion ici à Paris pour en prendre plein les yeux, voilà.
Et s'embrasser aussi.
À minuit ?
À minuit, effectivement.
Des couples, mais aussi des amis, des familles, beaucoup de monde convergent vers le haut des Champs-Élysées. Au milieu de l'avenue illuminée, cette marée humaine s'étend jusqu'à la place de la Concorde. Une foule qui impressionne Nadège et sa famille venue d'Avignon.
Là, on est arrivé, on était surexcités de voir ces gens qui avançaient vers l'Arc de Triomphe. C'était vraiment fantastique. Des étoiles plein les yeux.
C'est vrai que nous, en tant que provinciaux, on voit ça à la télé tout le temps. Et c'est plus cool de venir le voir une fois en réalité. Voilà. Ce soir, il fallait être là.
Être là pour le clou du spectacle, le feu d'artifice bien sûr, 2700 tirs en à peine 5 minutes avant le fameux décompte. Alors forcément, Déborah et son papa n'attendent que ça.
Il brille trop, j'ai trop envie de le voir, j'espère qu'il sera trop beau.
Le temps est un peu long, le papa dit oui.
Oui, ça commence à être long, oui.
Plus que 2 heures à attendre.
Plus que 2 heures, et éventuellement 2 heures pour rentrer.
Oui.
Donc la soirée va être longue.
Une longue soirée en effet sur les Champs-Élysées où la fête ne fait que commencer.
Merci Romane Hoquet en direct des Champs-Élysées pour Europe 1. À noter qu'un important dispositif de sécurité est déployé sur l'avenue. Un barrage filtrant a été mis en place. La circulation différenciée instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire à partir de 5h du matin demain. Alerte à la pollution aux particules fines. Les véhicules avec une vignette critère 4 et 5 sont interdits sur les routes.
Sophie Echen sur Europe 1.
Direction le Liban à présent, où est arrivé Carlos Ghosn hier soir, après avoir fui le Japon où il était assigné à résidence dans l'attente de son procès. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi. Personne ne peut s'exonérer de l'application à la loi. Alors évidemment, la question principale, comment l'ancien patron de Renault-Nissan a-t-il pu s'échapper ? On commence à en savoir un peu plus ce soir, Aurélien Fleurot.
Alors ce qui est certain, c'est que Carlos Ghosn est arrivé hier matin à l'aube à l'aéroport de Beyrouth. Il est entré légalement, a précisé cet après-midi le ministère des Affaires étrangères libanais, tout en ajoutant que rien sur place ne l'exposait à des poursuites judiciaires. Il aurait donc pris l'avion depuis la Turquie et c'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'il est parti incognito d'un petit aéroport du Japon, très probablement en jet privé, puisque les autorités japonaises ont confirmé qu'aucune sortie ne lui avait été accordée et qu'aucun départ au nom de Carlos Ghosn n'avait été enregistré ces derniers jours. Il a donc vraisemblablement utilisé de faux documents lors de cette première étape pour fuir le Japon. Mais ensuite, pour se rendre au Liban, il disposait, selon l'AFP, d'un passeport français et de sa carte d'identité libanaise. Cette décision a surpris tout le monde, même si, selon certains proches, elle se comprend. Pour le journaliste Philippe Ries, qui écrit en ce moment un livre avec Carlos Ghosn, c'était ça ou la prison à coup sûr.
Vous êtes face à un procès dans lequel vous risquez votre vie, votre famille, votre réputation, et vous n'avez pas le respect de la part de l'accusation et du système judiciaire japonais des droits élémentaires de la défense. Donc, que faites-vous dans cette situation ? Que chacun se pose en conscience la question.
Et la prochaine étape côté Gaune, ce sera une conférence de presse dans quelques jours. En attendant, il peut passer le réveillon avec ses proches sans être inquiété puisqu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est aussi Donald Trump qui accuse l'Iran d'avoir orchestré l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad ce matin. Des milliers de partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens se sont rassemblés devant le bâtiment. Certains sont même parvenus à pénétrer à l'intérieur. Mathieu Bock, c'est la première fois que les manifestants arrivent si près de l'ambassade américaine.
Oui, qui est au cœur de la zone verte ultra sécurisée. Alors, vous l'entendez derrière moi, les manifestants ont essayé de pénétrer dans le bâtiment en défonçant les portes à l'aide d'un bélier de fortune. Au cri de « Dehors l'Amérique », ils ont arraché des caméras de surveillance, tenté de mettre le feu aux installations et ont même défié les militaires américains restés à l'intérieur des bâtiments armes à la main à travers les vitres blindées. Ces militants pro-iraniens, miliciens ou paramilitaires pour la plupart, participaient au cortège funéraire de 25 combattants tués par l'armée américaine dimanche lors d'une frappe en représailles à la mort d'un Américain tué par une roquette quelques jours plus tôt. Dans leur marche vers l'ambassade, ils n'ont jamais été stoppés par les forces de sécurité irakiennes, ce qui laisse perplexe les observateurs sur le degré de complicité des Irakiens, car les checkpoints sont très nombreux avant d'arriver au bâtiment américain. Les États-Unis ont d'ailleurs sommé le pouvoir irakien de défendre leur ambassade et son personnel. Ils ont également annoncé qu'ils allaient envoyer des marines en renfort. Les États-Unis qui ont affirmé ne pas vouloir évacuer ni abandonner leur ambassade. L'ambassadeur américain, qui n'était pas à Bagdad au moment de l'attaque, est justement en train de regagner la capitale irakienne.
Mathieu Bock. Et puis le ciel étoilé s'assombrit en cette fin d'année pour le chef au chapeau noir. Marc Vera perd son procès contre le guide Michelin. L'un de ses restaurants en Haute-Savoie a perdu sa 3e étoile en janvier dernier. Une erreur selon le chef qui réclamait une explication. Il avait donc attaqué le célèbre guide rouge pour obtenir les raisons de cette sanction. Écoutez la réaction de Richard Malka, l'avocat du guide Michelin.
Cette décision consacre, comme nous le demandions, la liberté critique, qui est un principe important, intangible, au bénéfice des consommateurs. Quand on est un personnage public, eh bien, on se soumet au jugement de l'opinion. Parfois, c'est dur, mais c'est une nécessité et c'est le jeu quand on propose, en l'occurrence, des repas à plus de 500 euros. Évidemment qu'on doit se soumettre à la critique, qu'elle soit imparfaite, c'est une évidence, c'est un exercice humain, mais tout le monde l'accepte dans tous les pays du monde. Et maintenant, nous espérons que l'apaisement va pouvoir s'instaurer, que M. Vera va revenir à la raison, à sa cuisine et sortir des prétoires où il faisait de bien mauvais procès.
Maître Richard Malka, l'avocat du guide Michelin. Traditionnellement, les inspecteurs n'ont pas à justifier leur choix. La justice leur a donné raison, ils n'auront donc pas à le faire. La réaction de l'avocat de Marc Vera, maître Emmanuel Ravanas.
Vous savez, quand vous êtes étudiant, que vous passez un examen, que vous avez obtenu une note de 17 sur 20, rien ne vous empêche de demander à accéder à votre copie pour savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu 20 sur 20. La réalité, c'est que des chefs comme Marc Vera, ce sont des gens qui se battent au quotidien pour l'excellence, et c'est quelqu'un qui veut savoir pourquoi il ne lui a pas été décerné la meilleure note. Encore une fois, il assume tout des possibles erreurs, mais il attend qu'on les lui justifie, et vous faites tout l'intérêt de ce dossier. C'est le guide Michelin lui-même qui dit qu'il a une méthodologie extrêmement développée, extrêmement objective, avec des critères. Et quand on essaye de gratter un peu, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'existe sans doute pas grand-chose de tout cela. Ils sont évidemment déçus et la seule chose que l'on demande encore une fois, c'est d'être déréférencé du guide compte tenu de la perte de confiance qui peut exister dans le contexte que chacun comprend.
Maître Emmanuel Ravanas, joint pour Europe 1 par Salomé Legrand. À noter que le chef Marc Vera devrait déposer un recours. La météo, tout de suite, avec vous Valérie Darmon. L'année 2020 va démarrer sous un ciel gris à l'ouest comme à l'est.
Tout à fait, sur le Jura, le sud de l'Alsace, les départements pyrénéens, le sud-est, la Corse. Après la dissipation de la grisaille du matin, le soleil va s'imposer. En revanche, partout ailleurs, le ciel va rester gris et très nuageux. Les bancs de brouillard localement givrants le matin persisteront une bonne partie de la journée, notamment sur le Grand Est, les Hauts-de-France et le Val-de-Saône. À l'ouest de la Bretagne et de la Basse-Normandie, au centre et au nord de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que jusque sur Midi-Pyrénées, le temps sera beaucoup plus doux, aussi un petit peu humide, avec de petites pluies éparses très localement.
Votre météo signée Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Juste avant l'invité de Sébastien Krebs, soirée festive en ce 31 décembre. Sébastien reçoit le directeur de scène du Moulin Rouge, Thierry Outria. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. 22h15 sur Europe 1, il est l'heure de faire un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Wall Street termine l'année sur une note très positive.
Oui, en hausse sur le fil. Après un début de séance plus mitigé, le Dow Jones gagne finalement 0,27% à 28 538 points. Le Nasdaq avance de 0,3%, 8 973 points. Des indices qui restent proches de leur plus haut historique. On a une date ce soir pour la signature de l'accord commercial de phase 1 avec la Chine. Donald Trump parle du 15 janvier. Une bonne nouvelle alors que cette guerre commerciale dure depuis 18 mois. Wall Street clôture ainsi une très belle année. Le Dow Jones a bondi de 22% depuis le 1er janvier et le Nasdaq de 35%.
Et c'est Apple qui signe la meilleure performance annuelle à New York.
Oui, Apple a flambé de 85%. Après un mauvais début d'année, le titre a été porté par les ventes de l'iPhone 11, son dernier smartphone. Le lancement du service de vidéo en streaming Apple TV Plus aussi a été apprécié. Dans le même secteur, Microsoft a engrangé 54%. Très belle année aussi pour les bancaires. Goldman Sachs et JP Morgan montent par exemple de plus de 30%.
Et le marché parisien est resté stable aujourd'hui. Il signe sa meilleure année depuis 20 ans.
Oui, c'est une dernière séance très calme. À Paris, le CAC 40 termine à 5 978 points et ça donne un gain annuel de 26,37% précisément depuis le 1er janvier. C'est la meilleure performance du CAC 40 depuis 1999. Les secteurs du luxe et de la technologie sont les grands gagnants de l'année. Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a quasiment doublé de valeur. LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, s'offre un gain de 60%. Excellente performance malgré la guerre commerciale et les tensions politiques à Hong Kong. Et puis l'avionneur Airbus est troisième avec une hausse d'environ 57%.
Et en revanche, 2019 a été beaucoup plus compliqué pour le titre Renault.
Oui, une année marquée bien sûr par l'affaire Carlos Ghosn qui a fragilisé l'alliance avec Nissan, mais aussi par l'échec du rapprochement avec Fiat Chrysler. Le groupe de communication Publicis fait partie lui aussi des mauvais élèves. Il a chuté de 15% après plusieurs avertissements et une panne de croissance. Ailleurs en Europe, 2019 aura aussi été une très belle année. Francfort et Zurich ont flambé de 25%, Milan grimpe de 28%, plus 10% pour Londres et plus 26% donc pour le CAC 40 qui termine l'année à 5 978 points.
Merci beaucoup à vous Claire Lemaître de Boursier.com et bon réveillon à vous.
Bon réveillon aussi à vous Sophie.
Merci beaucoup. Pas de bourse demain pour le 1er janvier. On retrouvera Didier Hameau de Boursier.com le 2 janvier. Pendant les vacances, pas d'écho, mais l'invité culture de Sébastien Krebs, et cela promet d'être festif ce soir, alors que le Moulin Rouge vient tout juste de fêter ses 130 ans. Sébastien recevait le directeur de scène du cabaret, Thierry Outrio.
Bonsoir Thierry Outria.
Bonsoir Sébastien.
Bienvenue sur Europe 1. Merci de nous rejoindre en ce soir de réveillon du 31 décembre. Vous êtes le directeur de scène du Moulin Rouge qui vient de fêter ses 130 ans. Bel anniversaire à vous. On entend l'hymne du spectacle, hein, Féerie, qui est à l'affiche en ce moment. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, là, le 31, c'est un moment important pour vous. Très grosse soirée.
C'est non seulement une grosse soirée, mais c'est surtout la plus belle des soirées, quelque part, puisqu'il y a un dress code, les gens seront très très bien habillés, il y a un repas extraordinaire, il y a des vins millésimés, et puis surtout, ils auront la revue avec 64 danseuses, avec 1000 costumes, je veux dire, avec des musiques incroyables. Il y aura un DJ après, on pourra danser toute la nuit. Donc voilà, c'est l'endroit le plus festif peut-être à Paris pour fêter la nouvelle année.
La nouvelle année, et ça reste aussi une tradition, la tradition du cabaret pendant les fêtes. Donc le Moulin Rouge au pied de Montmartre, ouvert en 1889. Le Moulin Rouge qui tourne toujours sur Pigalle. Il faut le rappeler, à la base, c'était quand même un lieu de débauche.
C'était pas un lieu de débauche, c'était un lieu où les gens venaient s'encanailler. Après, je pense pas qu'il y ait... c'était pas vraiment un endroit de débauche. En fait, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer seules. C'était des hommes qui avaient imposé leur dictat.
D'accord.
Et ce qui fait que les femmes devaient venir accompagner. Et la plus célèbre, la Goulue, à l'époque, était venue un soir accompagnée d'un bouc. Et on lui dit, mais Madame la Goulue, vous ne pouvez pas rentrer avec un animal, vous comprenez? En plus, vous êtes seule, on ne vous laisse pas entrer dans les balles. Et elle m'a dit, mais écoutez, regardez, je suis accompagnée par un mâle, et en plus, il sent moins mauvais que les hommes. Donc, vous voyez, ce n'était pas un lieu de débauche, c'était un lieu où les gens venaient, je veux dire, pour... Il fallait passer par le Moulin Rouge à cette époque-là, parce que c'était le lieu des scandales, en fait, et c'était aussi le lieu où on venait pour s'amuser. et boire.
Et on visualise bien, évidemment, la Goulue immortalisée par Toulouse-Lautrec. Alors là, c'est la belle époque, mais le Moulin Rouge donc a traversé le temps. Vous avez quand même traversé une partie de cette histoire du Moulin Rouge parce que vous y êtes entré il y a déjà un bon moment. Il y a 44 ans.
Oui.
Vous êtes entré comme danseur
et
vous êtes aujourd'hui le directeur de scène.
De la scène, oui.
Quel souvenir vous avez de votre entrée au Moulin Rouge ?
Mais écoutez, j'étais à l'armée à l'époque, il y avait encore le service militaire, je passe un week-end à Paris. J'étais déjà danseur professionnel avant d'aller à l'armée, ce qui fait que je me suis présenté comme ça au culot. Et donc le metteur en scène, la maîtresse de bal était absente, le metteur en scène dit « mais écoutez, mettez-vous derrière et suivez ». Donc voilà, je suis la répétition des boys qui s'effectue à ce moment-là. Et il me dit « écoutez, moi ça me plaît, mais c'est pas moi qui engage, il faut passer voir Miss Doris ». Miss Doris m'appelle le lendemain en me disant « si vous êtes encore là, venez passer l'audition ». Et au bout d'une demi-heure, elle me dit « voilà, vous êtes engagé, vous commencerez au mois d'octobre à répéter ». Et le soir, elle m'a invité à voir le spectacle. C'était la première fois pour moi. J'étais assis dans la salle du Moulin Rouge et quand le rideau s'est ouvert, j'ai eu la même impression que tous les clients qui viennent depuis ces 44 ans que je suis là. C'est-à-dire qu'on est émerveillé, on a la bouche ouverte et je me suis dit, je suis fier de pouvoir commencer à travailler là. Mais je n'imaginais pas que j'allais faire ce parcours. C'est ça qui était amusant à l'époque.
Vous êtes toujours autant émerveillé aujourd'hui quand vous êtes en coulisses le soir
Mais absolument. D'abord parce que j'adore mes collègues de travail. Il y a une très bonne ambiance, on s'amuse. Là, derrière, le backstage, les filles entre 18 et 24 ans, donc voilà, c'est plutôt un petit peu colonie de vacances. Ouais. C'est très professionnel, bien entendu.
Bien sûr, avec l'exigence, évidemment, d'un cabaret comme celui-là, qui est encore supérieur, vous diriez, à celle que vous avez connue en arrivant.
Disons que l'ambiance pour les répétitions et backstage, ça n'a jamais vraiment changé. Ce qui a pu changer, et maintenant, on voit quand on passe dans les couloirs ou dans les loges, c'est que les filles sont plutôt sur les tablettes et les smartphones en train de parler avec leur famille.
Ouais.
C'est ça. La génération a changé avant, et comme il n'y avait pas de téléphone, eh bien, on se parlait, on échangeait, on connaissait tout du voisin à droite et du voisin à gauche. Donc il y avait vraiment un plus grand partage.
Mais aujourd'hui, c'est vous qui les recrutez, ces danseurs et ces danseuses.
C'est la maîtresse de ballet, c'est Miss Janet Farrow, qui est directrice artistique aussi associée, qui fait le tour du monde. Elle fait des auditions un peu partout, et elle voit des milliers de danseurs et très peu sont retenus parce que, comme nous cherchons l'excellence, la beauté, il y a une taille minimum, c'est 1m75 pour les filles, 1m85 pour les garçons. Il faut qu'ils soient beaux, qu'ils soient musclés, il faut que les filles aient une grande beauté et en même temps qu'ils sachent bien danser. Donc voilà, ce qui fait que même en faisant le tour du monde, on a quelquefois un petit peu de mal à recruter des jolies créatures.
80 artistes sur scène, c'est ça, dont les 60 fameuses Doris Girls.
C'est ça. Oui.
Un millier de costumes, les paillettes, les plumes, évidemment, et le traditionnel French Cancan. Le French Cancan sur Offenbach, c'est toujours la même musique ?
Ça n'a pas changé.
Ça n'a jamais changé.
Non. Ça n'a pas changé. C'est toujours 8 minutes, comme à la création. En 1889, les danseuses n'apparaissaient au milieu de la foule que pour faire ces 8 minutes. À l'époque, ça s'appelait le quadri réaliste. C'est après les Anglais qui l'ont baptisé le French Cancan parce qu'il l'avait exporté. Et ça a fait tellement scandale en Angleterre que le gouvernement a interdit le French Cancan en disant « mais c'est trop indécent et c'est un petit peu comme... » Vous parliez de débauche tout à l'heure, mais c'est ça. C'est, le French Cancan, en fait, ce sont des mouvements...
C'était perçu comme ça, en tout cas. Ouais.
Et du coup, c'est revenu en France en disant « si c'est interdit en Angleterre, c'est sûrement génial. Qu'est-ce qu'on peut interdire ?» Ils ont pris le French Cancan et l'ont remis à la mode. C'est comme ça que le Moulin Rouge, quand il s'est ouvert, on a mis en valeur le French Cancan.
Et Paris, donc symbole évidemment de liberté aussi à cette époque-là. Vous avez vu le public évoluer dans la salle depuis 40 ans ?
Tout à fait, puisque le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann a été comme un détonateur pour nous. Avant, je me souviens, quand j'ai débuté au Moulin Rouge, on avait une clientèle de personnes un petit peu âgées, un petit peu avec de l'argent quand même, parce que c'était des soirées un petit peu chères à l'époque. Et on a vu avec le film Moulin Rouge, d'un seul coup, arriver une clientèle de 18-20 ans et qui se met debout et qui danse pendant certains numéros. On a un numéro qui s'appelle « I Will Survive » et que Baz Luhrmann a gardé le cœur pour mettre dans son film, voilà. Et donc, les gens se lèvent et le patron disait « Mais non, on est au Moulin Rouge, il faut garder... Attention, allez leur dire de s'asseoir. » On a dit « Mais... »
Et d'un seul coup, le Moulin Rouge a pris une image plus contemporaine et plus...
Absolument, on a dit « Mais c'est la clientèle de demain, laissez-les danser. »
Et plus rock.
Absolument.
Grâce à ce film. Alors, le cabaret, ça marche très bien à Paris. 600 000 spectateurs par an au Moulin Rouge. On se peut citer aussi, évidemment, le Lido, le Paradis Latin, le Crazy Horse qui marche également très, très bien. Et ça fonctionne aussi très, très bien en région. Et on est en ligne ce soir avec Pierre Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Alors c'est un exemple frappant, c'est une success story absolument formidable que votre cabaret qui s'appelle le Royal Palace, c'est le troisième cabaret de France et il est à la campagne, en Alsace, à Kirchwiller, dans un village de moins de 600 habitants. Incroyable histoire, c'est vous qui l'avez créé de toutes pièces ce cabaret, presque 40 ans.
Oui, j'ai repris le dancing de mes parents en 1980 Donc, j'ai commencé à faire des repas dansants et un tout petit spectacle. Et ce spectacle, il a grandi d'année en année. Et voilà, aujourd'hui, on a 40 artistes sur scène et puis 200 000 spectateurs. C'est formidable.
200 000 spectateurs chaque année avec la revue qui est à l'affiche chez vous en ce moment. C'est Tempo.
Tempo, oui.
Voilà pour cette revue, Pierre Meyer. Vous n'avez rien à envier finalement au cabaret parisien, on peut le dire aujourd'hui.
Bah écoutez, chacun un spectacle différent, hein, et puis nous on change aussi tous les ans le spectacle, hein, parce qu'on a beaucoup d'habitués qui reviennent d'année en année. Voilà, donc c'est toujours une remise en question tous les ans pour faire plus fort. Et on investit vraiment dans la production, dans la qualité du spectacle tout le temps.
Il y a des choses qu'on voit au Royal Palace et qu'on ne voit pas ailleurs ?
Écoutez, pour nous, la seule chose qui change, c'est que bon, on mange, il y a deux restaurants, un restaurant de 850 places et un autre 160.
Le spectacle, deux restaurants, une boîte de nuit et une soirée spéciale prévue ce soir pour le Nouvel An ?
Oui, ben on a deux séances, la séance de 21h et l'autre, le spectacle à minuit et demi. Et après, revient dans les restaurants pour continuer à danser jusqu'à l'aube.
Voilà, jusqu'à l'aube, évidemment, pour ce nouvel an. Thierry Autria, vous êtes déjà allé au Royal Palace en Alsace ?
Plusieurs fois, on est accueillis merveilleusement. Et Pierre et Cathy Meyer sont des hôtes parfaits. On mange une cuisine délicieuse. Et en plus, le spectacle est toujours de grande qualité. Vous disiez quelle différence avec les cabarets en France, à Paris. Mais en fait, Pierre Meyer, au Royal Palace, a plus d'attractions qu'au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge, on a trois attractions chaque soir qui interviennent entre les ballets. Quand on va à Kervillers, on voit les meilleurs numéros parce qu'il fait le tour du monde pour sélectionner ses numéros artistiques et c'est vraiment de grands numéros. Donc je les embrasse en cette fin d'année. Bonne année Pierre, bonne année Cathy, bonne année à toute l'équipe.
Merci, merci beaucoup.
Et vous n'êtes pas le seul Pierre Meyer parce qu'il y a aussi d'autres histoires à travers la France. Le cabaret marche encore très très bien, il y a cette tradition qui est ancrée. Et on continue d'attirer des artistes du monde entier un peu partout.
Oui, absolument. Il y a plus de 200 cabarets maintenant en France. Donc, nous sommes très contents. Et c'est bien parce que ce qui se passe, justement, c'est quand les gens vont en province voir des spectacles, ils sont toujours attirés après de dire, tiens, on va aller à Paris pour voir les plus grands cabarets, disons. Mais les plus grands cabarets, on parle au niveau des spectacles, puisqu'on a 80 personnes sur scène et que ce sont des gros budgets aussi. Voilà, donc les gens sont tentés de venir s'émerveiller aussi à Paris.
Merci beaucoup Thierry Autria d'être venu ce soir. Je rappelle que c'est le directeur de la scène du Moulin Rouge qui fête donc ses 130 ans cette année. Merci aussi à Pierre Meyer qui était en ligne avec nous depuis le Royal Palace à Kervillers en Alsace. Je vous souhaite un très bon réveillon à tous les deux et une très belle année 2020.
Merci, bonne année à vous.
Merci.
Et merci à vous Sébastien Krebs. Très bon réveillon également. Ne bougez pas dans quelques instants. On jette un œil sur la une de vos journaux de demain. A tout de suite sur Europe 1. Comme promis, on se penche sur ce que vous allez découvrir dans vos journaux demain. Le chef de l'État à la une de la Provence, retraite, Macron ne pivote pas, titre le quotidien marseillais qui revient sur l'allocution présidentielle de fin d'année. Le chef de l'État est resté ferme sur la réforme des retraites tout en demandant au gouvernement de trouver la voie d'un compromis rapide, écrit le journal. Emmanuel Macron qui a également rappelé les défis de cette nouvelle décennie. Le président également à la une de la Charente Libre. Emmanuel Macron ne bat pas en retraite, titre le quotidien qui pointe la volonté du chef de l'État de mener à son terme sa réforme très controversée. À découvrir dans la Charente Libre également le réveillon des Dames de Cœur. 150 personnes sont réunies ce soir au château de Fléac près d'Angoulême pour un réveillon solidaire. L'une des nombreuses actions généreuses de l'association au fil du temps. Et puis Carlos Ghosn en une du Parisien aujourd'hui en France. La cavale de l'ex-patron de Renault, titre le quotidien. Les conditions de l'évasion de Carlos Ghosn ne sont pas encore connues, mais il a forcément bénéficié de complicité, écrit le Parisien. Certains de ses anciens partenaires de Renault-Nissan redoutent ses déclarations. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Passez un excellent réveillon et une très bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Olivier Delacroix pour la dernière Libre Antenne de l'année. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Sophie.
Pour vous appeler, un seul numéro, le 3921. Très bonne émission
à vous. Exactement, et à tout à l'heure Sophie.
À tout à l'heure. Yeah.